C'est Platon Malin sur RCN, Margot Gross.
À toutes et à tous, vous êtes sur RCN et vous écoutez Fait Platon Malin, votre émission consacrée à la philosophie et au cinéma, un jeudi sur deux de 14h à 14h30. Et aujourd'hui, on est avec Jean-Christophe Brossard, étudiant en philosophie. On va parler du film de science-fiction et action V pour Vendetta, sorti en 2006 et adapté de la bande dessinée éponyme.
RCN, Fait Platon Malin, Margot Gross.
Salut Jean-Christophe, comment ça va ?
Salut, ça va et toi ?
Super. C'est la première fois qu'on te reçoit dans nos locaux. On est très contents de t'accueillir.
Eh bien, c'est pareil, merci à vous.
Pour commencer, Jean-Christophe, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs un petit peu le pitch du film V pour Vendetta ? Si tu devais résumer en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais ?
Oui, alors ça se passe dans une dystopie. Donc c'est en Grande-Bretagne où il y a un régime totalitaire qui s'est mis en place avec un parti fasciste qui s'appelle le Northfire. Et le personnage éponyme, qui s'appelle V, qui est anonyme, qui a un masque d'Anonymous, décide de mener une vengeance personnelle qui mènerait à une révolution et à détruire le parti fasciste.
T'as donc regardé ce film pour l'émission, tu le connaissais déjà avant ?
Alors moi je connaissais un peu la trame et aussi les répercussions politiques que ça a eues, les symboles comme le masque, mais c'est vrai que je l'ai regardé pour l'émission du coup.
V pour Vendetta, on le rappelle, c'est un film qui met en avant justement la justice civile considérée ici injuste dans un Royaume-Uni dirigé par la première ministre Margaret Thatcher. Le personnage principal, c'est un justicier masqué, costumé, qui s'appelle V, et il reproche au gouvernement de ne pas respecter les libertés individuelles, en tout cas au nom de la vérité, de la sécurité, pardon. Mais pour lui, s'opposer à un état d'injustice n'est pas suffisant. Il veut aboutir à l'anarchie qui, pour lui, propose une organisation juste de la société et respectueuse des libertés de l'individu. Jean-Christophe, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est l'anarchie, d'où ça vient si tu sais, et puis comment ça marche en fait ?
Oui, alors c'est un courant de pensée qu'on peut faire remonter quand même dans sa consistance propre au XIXe siècle. Je dirais, où dans les grandes figures, on a des gens comme Proudhon, par exemple, en France, ou après des gens comme Bakounine, qui veulent construire une société où il n'y aurait pas de propriété privée. Ça, c'est hyper important. C'est même un point commun avec d'autres tendances comme les marxistes. Par contre, qui considèrent qu'on ne peut pas passer par une organisation d'État qui ramènera, en fait, forcément une forme soit de propriété privée, soit de violence sur les exploités qui auraient fait la révolution.
Et comment ça se met en place dans un régime qui n'est à la base pas une anarchie du coup ?
Oui, alors c'est intéressant parce que c'est la question que ça pose quand même dans V pour Vendetta. Parce que c'est quand même un principe de justice, l'anarchie. C'est pas quelque chose où il n'y a pas de justice ou alors on dirait qu'il n'y a pas de règles et il faudrait se libérer de toute forme d'idée. Et on le voit même avec V dans le discours qu'il fait au début du film où il prend le contrôle des médias. Il dit bien que la justice, ce n'est pas un mot, c'est un principe. Et après, toute la question, et la question, elle se pose même quand on est anarchiste, c'est est-ce qu'on revendique un principe qui serait naturel et qui serait au-dessus de la société et qu'il faudrait alors rétablir ? Et V, quand il parle de liberté individuelle, il en parle comme si on bafouait en fait, des règles naturelles de ce qu'on est en tant qu'homme et qu'on ne respecterait pas. Ou est-ce que c'est un principe de justice qui est entièrement social ? Et là, ce serait peut-être, en un sens, aller au bout de la pensée anarchiste. Après, ça paraît très difficile à défendre dans des cas où on combat des régimes fascistes ou même historiquement, comme les nazis. On rechigne quand même à dire oui, nous aussi, on propose seulement un principe social. On a envie d'en appeler un principe naturel.
Dans ce monde de science-fiction V pour Vendetta, il y a une forte opposition entre l'État et la morale. Est-ce que tu peux nous expliquer, Jean-Christophe, un petit peu en quoi ça consiste, cette opposition, en quoi ça s'oppose en fait ?
Oui, c'est intéressant. Alors il y a une scène qui est vraiment claire sur ce sujet-là, c'est au tout début du film, il fait sauter le Old Bailey's, qui est la cour correctionnelle de Grande-Bretagne, et qui est normalement le symbole même de la justice, et il le fait sauter au nom de la justice. Alors c'est une opposition qui est classique et qui parcourt vraiment toute l'histoire de la philosophie, hein, même, hein, c'est pas trop gros de le dire, entre le fait de savoir si la justice c'est un modèle naturel auquel les sociétés auraient à se conformer, ou si c'est un principe qu'on dit positif. Alors, c'est un mot un peu jargonneux, mais c'est seulement pour dire que c'est un principe qui est établi par les institutions. Et que là, la question, ce n'est pas un modèle naturel à comprendre, à connaître et ensuite à appliquer. C'est un modèle à faire progresser par les institutions. Et l'ambiguïté du terme entre État et morale, c'est, encore une fois, quand on veut amener plus de justice, sur quoi on se base? Et ça change aussi considérablement notre manière de considérer la collectivité.
Et la question finalement dans ce film, c'est est-ce qu'on doit suivre notre morale à la place des lois qui sont écrites dans les textes qu'on devrait respecter?
Ouais, exactement. Alors il y a une autre ambiguïté dans le film qui est intéressante dans ce que tu dis, c'est que même V, lui, c'est une vengeance personnelle pour lui. Et il y a un truc paradoxal où même s'il en appelle à faire une révolution pour des principes de justice qui semblent vraiment collectifs, lui le vit comme une vengeance personnelle du début à la fin. Les gens qui l'assassinent, c'est des gens qui ont mené des expérimentations sur lui et c'est ça qui devrait amener la révolution. Alors, je pense que dans ces questions-là, il y a deux choix là aussi globaux qu'on peut faire et qui ont été faits souvent. Même dans des courants comme l'anarchisme, soit de dire qu'il faut réfréner ou empêcher au maximum que des impulsions personnelles puissent entraver notre bonne connaissance de la justice, je dirais, soit un autre qui est d'assumer complètement que ça ne peut que passer par des émotions personnelles et de les utiliser à bon escient.
Dans un instant, Jean-Christophe, tu restes avec nous sur RCN et on parlera des autres thèmes qu'évoque le film V pour Vendetta et comment il s'illustre. Mais tout de suite, on écoute I Am X, Bernadette.
Oh,
fait Platon Malin sur RCN, Margot Gross.
C'était I Am X avec Bernadette à l'instant sur RCN. On est toujours avec Jean-Christophe Brossard, étudiant en philosophie. Tu es venu nous parler aujourd'hui du film de science-fiction V pour Vendetta. On disait tout à l'heure que c'était notamment un film dans lequel la thématique de la justice civile est très présente. Alors on peut se demander justement si ce sens de la justice dans la conscience n'est pas peut-être purement subjectif.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est intéressant, on peut peut-être revenir du coup sur l'opposition entre la justice comme un principe naturel ou comme un principe positif. Parce qu'on peut tenir un principe positif en disant que, par contre, c'est une question de distribution et de rétribution selon les places qu'on occupe socialement. Et là, ça pourrait être plutôt objectif. Il y a des penseurs contemporains, peut-être le plus intéressant, et en plus moi je trouve un des plus abordables, qui s'appelle John Rawls. Il était connu pour un texte qui s'appelle Théorie de la justice. Par exemple, un des principes de base que lui il défend, tout en ce que ce soit un principe social et positif, c'est que l'un des principes fondamentaux, que les inégalités, s'il y en a, profitent au maximum à ceux qui sont désavantagés. Alors par exemple, c'est des principes qui paraissent très abstraits, très universels, mais qui permettraient de fonder une sorte d'objectivité, tout en ce que ça soit social. Parce qu'il ne faut pas oublier que le principe de justice naturelle, même si ça paraît plus objectif, dans l'histoire, que ce soit de la philosophie, mais même en fait historiquement, basait le principe de rétribution sur des propriétés naturelles. Puis on voit où ça mène, parce que du coup, il y a des penseurs qui sont des classiques, mais qui ne sont pas très sympas, comme Thomas d'Aquin, par exemple, au Moyen-Âge, qui disait, bon voilà, regardez, les femmes sont ceci, les hommes sont cela. Donc, ce qui est vraiment de la justice, c'est de rétribuer de manière différente. Et si vous ne respectez pas ces principes-là naturels, là, c'est une situation injuste.
Le philosophe Thoreau a aussi, lui, travaillé sur cet aspect subjectif ou non de la justice civile, justement. Et disait que la justice n'était pas subjective parce que la solitude de la conscience permet d'accéder au sens d'une justice universelle et éternelle. Qu'est-ce que tu dirais, toi ?
Alors, c'est intéressant parce que Thoreau, c'est la désobéissance civile, enfin, c'est un des théoriciens les plus importants de ça aussi, comme acte, on va dire, politique concret. Je pense que la différence dans ce que tu as abordé avec d'autres courants anarchistes, et peut-être aussi des courants comme celui de V, c'est que ça va plus être des courants qui se basent pas sur des questions d'individus ou d'actes isolés, mais en général qui fondent les principes de justice sur des conflits qui seraient premiers, qui seraient ancrés socialement, et que dont on peut avoir une connaissance pour ensuite les régler. On parlait de propriété privée, par exemple, des moyens de production, pour dire grossièrement. Un anarchiste, c'est sur ça qu'il fonde objectivement son principe de justice. Alors que c'est vrai que quelqu'un comme Thoreau, c'est une forme d'anarchisme, mais qui s'en différencie quand même, je trouve, sensiblement, parce que l'objectivité passe plus par des conflits entre des individus ou des groupes d'individus, mais des principes de justice qu'on pourrait trouver dans des actions singulières, dans des individus singuliers.
Dans le film V pour Vendetta, pour mettre en place l'anarchie, justement, le personnage V va attaquer chacun des fondements du pouvoir en place à travers une série d'attentats. Il arrive notamment à prendre le contrôle de La Voix, qui représente l'ensemble des médias et le moyen de diffusion de propagande à travers le pays. Il diffuse un message transmis sur toutes les télés du Royaume-Uni, dans lequel il reproche à la population d'être la seule responsable de la prise du pouvoir du parti fasciste. Est-ce qu'il y a des penseurs comme ça qui ont travaillé sur l'idée du pouvoir souverain injuste? Je pense notamment à Étienne de la Boétie.
Ah oui, alors c'est peut-être même l'une des plus grosses questions, mais c'est intéressant parce que c'est une question qui vient qu'à une certaine période historique, parce que nous on se pose la question de qu'est-ce qui est souverain, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce qu'on a une différence qui est très nette à partir, si on prend une grande échelle, du 16e, quoi, entre ce qui est naturel et ce qui est culturel. Alors que les Grecs, par exemple, ou quand on regarde des penseurs avant, ils ne se posent pas du tout les mêmes questions, parce que pour eux, ce qui fait justice dans la nature fait aussi justice dans la société, fait aussi justice dans notre âme, et le fait partout. Donc connaître le principe, c'est connaître là où ça s'applique dans tous les cas. Alors que pour nous, se poser la question de la souveraineté, c'est ne pas se fonder sur un principe naturel. Donc à partir du moment où on se pose la question là, c'est plus quel est le principe de justice, c'est qu'est-ce qui fait qu'un pouvoir est légitime aux yeux des autres. Et Étienne de la Boétie, par exemple, dans La servitude volontaire, c'est une idée qui va aussi parcourir même d'autres penseurs jusqu'à aujourd'hui, qui est de se demander s'il y a des pouvoirs injustes, comment est-ce que c'est possible que des gens les trouvent quand même légitimes. Et il peut y avoir une légitimité de ce qui est injuste.
Étienne de la Boétie disait justement que s'il peut y avoir un pouvoir souverain injuste en place, c'est parce que les individus ont consenti à le laisser accéder au pouvoir et à y obéir. Est-ce que c'est une forme de lâcheté quelque part de ne pas laisser, de laisser justement se mettre en place des lois injustes ?
Alors, là aussi, il y a une question un peu souterraine à ça, je trouve, mais moi qui m'avais étonné même dans le film de V, est-ce que des gens qui laissent faire, par exemple, dans des situations historiques comme le nazisme, on va dire, pour prendre quelque chose qui ressemble beaucoup à ça, est-ce que les gens qui laissent faire, c'est parce qu'ils font rien, ou est-ce qu'ils sont quand même un minimum actifs ? Et en ce sens-là, c'est parce qu'ils ont fait des actes complices. Imaginons, comme dans V pour Vendetta, je suis une famille, je vois quelqu'un qui se fait arrêter pendant le couvre-feu. Est-ce que le fait de rien faire, c'est de la lâcheté parce que juge, je fais rien ? Ou est-ce que le fait de rien dire, c'est quand même une action, c'est quand même participer ? Et je trouve que la question devient intéressante aussi à partir de ce moment-là, parce que là, on peut se demander vraiment juridiquement comment on peut régler aussi des questions de complicité. Est-ce qu'on les règle en se demandant qui a essayé de combattre et qui n'a rien fait ? Ou est-ce qu'on les règle en se demandant à quel point les gens ont soutenu par leurs actes quotidiens ce régime-là ?
Est-ce que quelque part c'est une responsabilité qu'on a d'agir ? Je crois que justement Thoreau avait réfléchi sur cette question-là.
Ouais, alors là c'est super difficile aussi, parce que on revient au problème de base, c'est comment on fonde la responsabilité qu'on a.
Ouais.
Parce qu'il y a un argument qui est classique, qu'on entend hyper souvent dans des témoignages de situations comme ça qui ont vraiment existé, c'est des gens qui disaient « oui mais regardez... là, avec du recul, on peut dire que j'étais responsable. Moi, à ce moment-là, tout le monde le faisait, par exemple, ou rien ne se passait. Donc, pourquoi je devrais, moi, le faire ? Et quand on dit on est responsable, c'est qu'on aura un devoir de faire quelque chose ou de s'y opposer. Et là, on retrouve l'opposition qui est difficile et qui n'est pas réglable non plus en deux coups de cuillère à soupe. C'est ça qui fait le problème. C'est que vous regardez des témoignages de résistants dans des régimes, encore une fois, comme les nazis. Ouais. Ce qui leur donne une responsabilité, c'est quand même des principes naturels très forts, quoi. C'est-à-dire toute l'humanité doit être libre et égale. On ne peut pas faire de distinction comme ça. Et... quand des gens comme Thoreau travaillent dessus, c'est vrai que l'ambiguïté, et là j'ai pas forcément de réponse, c'est est-ce qu'on peut trouver un moyen de fonder une responsabilité dans des situations comme ça sans passer par la nature ou sans passer par un ordre naturel ? C'est vraiment difficile, même historiquement je pense.
Je vous propose de continuer en musique avec M, Je me démasque.
Un peu bête et romantique, réalité un brin magique, souvent lunaire sous mes tuniques. Je suis ici, mais avec lui, je l'ai dans la peau. Je viens,
RCN, fait Platon Malin, Margot Grosse.
C'était M avec Je me démasque à l'instant sur RCN. On est toujours avec Jean-Christophe Brossard, tu es étudiant en philo. Ton domaine de recherche, c'est la philosophie critique. Et tu es venu nous parler du film V pour Vendetta pour nous donner des analyses, des éléments d'analyse philosophique. On disait tout à l'heure que le pouvoir en place dans ce film était vu comme injuste et devait être remplacé par l'anarchie selon le personnage de V. Pour ce personnage, l'anarchie a deux visages, détruire et créer. Finalement, c'est un peu le principe de la révolution.
Oui, exactement. Alors, c'est là aussi où il y a tout le paradoxe même du concept de révolution. Je pense que dans l'anarchisme, et même dans V pour Vendetta, ça se voit, il y a une notion centrale. Tu parlais de souveraineté, qui est vraiment fondatrice aussi pour ces courants-là, et qui date aussi d'événements réels comme la Révolution française, celle d'autonomie politique. Et être autonome, c'est pouvoir se donner à soi-même sa propre loi et pouvoir reconnaître soi-même une loi qui est propre. Alors dit comme ça, ça paraît être un concept un peu blasant, mais c'est central pour l'idée de révolution, parce que comme tu dis, c'est quand même un acte qui toujours est violent, et on doit quand même trouver à réussir les moyens de créer quelque chose. Et le concept d'autonomie, il est très important dans ces traditions-là, parce que ce qu'on crée, c'est de l'autonomie. C'est qu'en passant par la violence, on regagne une autonomie, on la maintient par la violence et on la défend par la violence. Et très souvent, les expériences anarchistes réelles qui ont existé, même encore maintenant, une des plus connues, c'est par exemple les apatistes au Chiapas, c'est des notions qui sont centrales et qui permettent de les comprendre. Même le rôle par rapport à l'État, et qu'avec l'État, un peuple ne peut pas être autonome, par exemple. Je pense que c'est une des notions clés par rapport au problème que tu viens de souligner de détruire et créer.
Et est-ce qu'on peut être autonome tout en respectant les lois?
Alors ça, c'est la bonne question. Il y a plein de traditions différentes à cet endroit-là. Parce que en plus, toutes ces traditions-là, même le radical, quoi, comme l'anarchisme ou le marxisme, sont issues quand même de courants qui sont très conservateurs, quand même plutôt. La philosophie allemande, dont des gens comme Marx, Bakounine, par exemple, même moins explicitement évidemment, mais sont quand même issus, des gens comme Hegel, comme Kant, étaient plutôt des conservateurs. Et eux, par exemple, quand ils définissent l'autonomie, ils sont au contraire pas du tout pour un droit de révolte, parce que être vraiment autonome, c'est arriver à comprendre que c'est très rationnel la manière dont le droit est construit et dont l'État est construit, et ce serait pas du tout être autonome, ce serait se ravaler à un rang d'animal, de se laisser aller à ses impulsions et ses désirs pour vouloir imposer à l'État ce qu'on veut faire. C'est une notion vraiment à double facette, quoi, en plus.
Ce qui fait la révolution, c'est la désobéissance, quelque part. C'est une désobéissance créatrice, puisqu'en désobéissant à des lois injustes pour en créer des nouvelles qui, elles, sont plus justes, elle fait advenir quelque chose de nouveau et de meilleur. C'est pas tout neuf, cette idée de désobéissance civile. Il y a pas mal de penseurs, je pense notamment à Thoreau, qui ont travaillé dessus.
Oui, alors, je pense qu'en plus, c'est une notion qui est devenue très importante, même dans le champ contemporain militant, je veux dire, au-delà de l'aspect théorique, parce que après les expériences du XXe siècle, il y a le problème de la violence qui se pose plus dans les mêmes termes exactement que ça se posait pour des gens comme, je sais pas, Bakounine, ou même des grandes figures comme Marx, qui est de savoir si on peut penser des moyens de révolution qui passeraient pas par une violence. Après, la question, c'est, on revient à la question de souveraineté et d'autonomie, parce que autonomie, ça veut aussi dire ça, c'est trouver et reconnaître à soi-même son propre souverain, que ce ne soit pas extérieur à moi, quelque chose qui me soit imposé du dehors, voilà, je dirais. Et que je pense que c'est devenu une notion clé, parce que ce serait trouver un moyen de gagner une souveraineté réelle et qui ne passerait pas par une violence. Après, ce qui est un peu paradoxal dans des notions comme ça, c'est qu'à l'échelle mondiale, même encore à l'heure actuelle, pour que dans des situations d'injustice, on retrouve de la souveraineté et de l'autonomie, on passe encore quand même globalement par de la violence. Et ça, c'est une question qui est difficile, parce que dans la désobéissance civile, il y a toujours un moment, où on doit faire face à de la violence. Par exemple, quand on est réprimé, ce qui arrive très souvent, je pense aux dernières manifestations, par exemple, qu'il y avait eu pour... Total, où manifestants avaient, bloqué une assemblée générale. Bon, il y a un moment où la police arrive, les gaz et les matraques. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à ne pas réagir du tout et à être complètement pacifiste? Et on reste un peu dans l'idée de Thoreau, hein, je trouve. C'est-à-dire que c'est le geste pacifiste, du coup, qui appelle et qui mobilise les autres. Ou est-ce qu'il faut impulser à un moment une certaine violence ou une certaine réponse pour justement trouver le soutien qu'on cherche depuis le début? Et ça, c'est une question qui se règle je pense, majoritairement plus dans la pratique que la théorie, d'ailleurs. La théorie, elle vise plus à synthétiser après des résultats, quoi.
C'est un côté un peu contradictoire, justement, la désobéissance civile. À l'origine, on obéit aux lois pour faire régner la justice. Là, on renonce à obéir aux lois pour être juste.
Ouais, exactement. Parce que c'est vrai qu'on avait posé au début l'opposition entre un principe naturel et un principe social, et que là, au fil de la discussion, on en arrive à souveraineté, autonomie. C'est peut-être ça aussi qui est important. C'est que je pense que pour des raisons historiques qui ne sont pas que des choix théoriques et qui expliquent des paradoxes comme ce que tu viens de dire, pour nous, ce qui est juste, c'est ce qui nous permet d'être autonomes politiquement. Je pense que c'est vraiment hyper important parce que il y a un univers social qui est pas du tout le même que celui qui avait 3-4 siècles, et que des paradoxes comme celui de la désobéissance civile, c'en est pas tellement un, parce que justement ça fonctionne aussi dans notre monde à nous. Désobéir aux lois, ça peut être un principe de justice parce que ça peut nous permettre d'être plus autonome. Parfois il y a des lois où on est absolument pas autonome, on est un peu lésé. Je pense à un dernier exemple, la réforme des retraites par exemple, toutes les batailles qu'il y a eu dessus, il y a les raisons économiques. Mais dans les raisons politiques, il y a aussi beaucoup le fait que les gens disent « moi, je n'ai pas décidé. Je ne peux pas décider si la réforme passe ou pas. Et si je suis obligé d'aller dans la rue, c'est parce que je n'ai pas de pouvoir de décision sur cette réforme. »
Une dernière question pour finir, parce qu'on est déjà presque à la fin de cette émission. Est-ce que le fait de désobéir mène à la liberté ?
Ouais, alors c'est intéressant, moi ça me fait penser à la question sur la révolution, que c'est en même temps destruction et en même temps créer. Je pense que ça dépend comment on entend la liberté dans le fait de désobéir. Est-ce que c'est un but à atteindre ou est-ce que c'est le fait de désobéir qui nous rend libre ? Et on aurait une vision, soit dans le deuxième cas, là aussi c'est jargonneux, mais c'est pour faire des précisions, soit procédurales, c'est-à-dire que ce qui compte pour la justice, c'est l'acte qu'on fait. Et c'est l'acte lui-même de désobéir qui nous fait gagner, par exemple, de la liberté. Ou est-ce que c'est un but qu'on doit atteindre. Et là, à ce moment-là, on doit désobéir et s'organiser pour arriver à un certain moment où on sera libre. Moi, j'ai l'impression qu'en plus, dans la majeure globalité quand même des pensées anarchistes, c'est plutôt du côté procédural. Très, très souvent, il n'y a pas une idée d'état idéal qu'on devrait atteindre à la fin, et beaucoup plus celle de par des actes, par exemple arrêter un baleinier dans la mer, arrêter l'Assemblée Générale de Total, on devient libre.
Merci beaucoup Jean-Christophe, on est très contents de t'avoir reçu dans nos locaux, c'était un plaisir.
Mais tout pareil, merci beaucoup.
On peut te retrouver sur les réseaux sociaux Jean-Christophe Brossard. Merci de nous avoir écoutés, rendez-vous jeudi dans deux semaines de 14h à 14h30 pour la prochaine émission.